sur le pont des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peinture, photographie, cinéma, sculpture, musique. Dans l'actualité des arts, l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts. Sur le pont des arts de ce mois de novembre est principalement consacré à l'actualité de la photographie à Paris. À partir du mois de novembre, comme chaque année, pour un mois voire plus, Paris devient la capitale internationale de la photographie, avec des manifestations de toutes sortes, des expositions, des ventes, des tables rondes, une foire internationale. Un temps fort de l'actualité mondiale de la photographie, qu'on retrouve également en banlieue parisienne et en province. L'Académie des Beaux-Arts proclame donc généralement le lauréat du prix de photographie Marc Ladret de la Charrière, Académie des Beaux-Arts, fin octobre, début novembre, et présente l'exposition des travaux du lauréat de l'année précédente au même moment, pendant un mois. Ainsi, l'Académie expose le magnifique travail de Françoise Huguier, lauréate du prix de photographie 2011, pour son travail intitulé « Vertical, horizontal, intérieur, extérieur, les classes moyennes à Singapour, Kuala Lumpur et Bangkok ». Retrouvez la photographe sur Canal Académie, où elle a accordé une interview sur cette exposition que vous pouvez voir à l'Institut de France, pavillon Comtesse de Caen, entrée sur le parvis face au Pont des Arts sur la Seine. L'exposition est gratuite. Tapez le nom de Françoise Huguier dans le moteur de recherche de notre page d'accueil pour retrouver cette émission. Le 30 octobre dernier, le nom du lauréat 2012 a été révélé parmi 9 finalistes. Un événement au sein de l'Académie et sur la scène parisienne, car le prix et l'exposition s'inscrivent dans le cadre du mois de la photo à Paris. Le jury du prix, composé de messieurs Arnaud Dautrive, Yann Arthus-Bertrand, Jean Cardot, Lucien Clergue, Guy de Rougemont, Jacques Rougerie et Régis Varnier, tous de l'Académie des Beaux-Arts, et de Marc Fumaroli de l'Académie française, et de Madame Élise Longuet, avait sélectionné pour l'édition 2012 les 9 finalistes suivants. Dmitri Afasenko, Nolwenn Broad, Katharine Cooper, Frédéric Delangle, Thierry Girard, Grégoire Corcanau, Christelle Léris, Lucie et Simon et Christopher Taylor. Katharine Cooper est la lauréate 2012 du prix pour un projet original sur les Blancs africains 20 ans après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud où elle est née. Les projets des 9 finalistes sont présentés au même endroit que l'exposition de Françoise Huguier à l'Académie des Beaux-Arts, Institut de France, entrée sur le parvis. Pour l'instant, retrouvons Lucien Clergue dans un café parisien pour nous présenter la lauréate du prix de photographie 2012, Marc Ladret de la Charrière, Académie des Beaux-Arts. Lucien Clergue, nous sommes ensemble pour parler du prix de photographie Marc Ladret de la Charrière, Académie des Beaux-Arts 2012. Et le lauréat vient d'être proclamé, il s'agit d'une lauréate, il s'agit de Katharine Cooper. Alors le jury avait le choix entre 9 finalistes, je crois que cette année les dossiers ont été très nombreux comme chaque année, à peu près une centaine. Qu'est-ce qui a pu motiver donc ce choix et cette sélection, d'abord parmi le choix des 9 finalistes, puis ensuite on va parler évidemment de Katharine Cooper. Mais quel était un petit peu l'état des dossiers présentés cette année ?
Vous savez d'abord que ce prix Ladret de la Charrière est un prix pour un projet. C'est-à-dire que les personnes qui se présentent doivent, avec leurs images, ajouter une page de texte ou plus pour développer un projet qu'ils souhaiteraient réaliser grâce au montant de ce prix. Donc, lorsque je suis arrivé le jour du jury, moi, je les appelle les écrémeurs, mais c'est pas joli. Ce sont les sélectionneurs, parce que comme il y a beaucoup de dossiers, il y en avait presque une centaine, on n'y arriverait pas, nous. Parce qu'alors, les artistes, on est un peu trop chatouilleux, et on veut aller dans le détail et tout, on y passerait la vie. Donc on a 3 personnes qui viennent des milieux de la photographie, ou du cinématographe d'ailleurs, mais qui sont donc impartiaux, et qui font une sélection pour nous, ils en ont sélectionné, dont à peu près 10%.
Donc là, il s'agit de trois rapporteurs cette année.
Donc d'une part, M. Lavoignat, qui est auteur et réalisateur de films. Alain Sayag, qui fut le conservateur pendant beaucoup d'années de la photographie au musée Pompidou. Et Mme Wolenski, qui est critique d'art et auteur d'études sur la photographie. Donc, lorsque je suis arrivé, je leur ai demandé qui était sélectionné. J'ai vu les 9 noms. Et étrangement, j'ai vu parmi ces 9 noms une personne qui travaille chez moi. Alors, je leur ai dit, mais comment vous avez choisi cette personne? Ah, ils m'ont dit, alors on va vous dire tout de suite, on ne savait absolument pas qu'elle travaillait chez vous. Donc, soyez rassurés. C'est pas du tout parce que vous étiez dans le coup qu'elle a été sélectionnée. C'est son travail qui nous a impressionnés. Et d'ailleurs, ils nous ont dit, en préambule, quel que ce soit votre choix, nous l'approuverons. Car les 9 que nous avons choisis nous plaisent à différentes raisons. Et donc, c'est vous qui choisirez. Alors, quand on en est venu à voter, j'étais un peu embarrassé. Bon, je l'ai dit à mes collègues. Mais ils m'ont dit, il n'y a que le résultat qui compte. Hein. Si les images sont les meilleures, on verra bien. Et effectivement, après réflexion, après avoir vu un peu tous les autres, alors certains membres du jury étaient contre, mais d'une manière violente contre certaines choses. Mais elle a fait l'unanimité. Alors donc c'est Catherine Cooper, c'est une jeune femme qui est née au Zimbabwe, qui était la Rhodésie du Sud. Et elle est venue faire des études de photographie d'abord à Londres, puis à l'École nationale supérieure de photographie d'Arles. J'ai participé à sa création. Et elle s'y plaisait tellement qu'elle a redoublé volontairement la dernière année. Et c'est étrangement quelqu'un, un Américain, qui me l'a présenté un jour dans la rue, me disant que c'était, elle pouvait être un excellent modèle, ce qu'elle fut d'ailleurs, car elle est magnifique. Et c'est une grande sportive en plus. Elle fait le triathlon, en fait, etc. Donc. Et elle a commencé par venir tirer chez moi le soir après l'école. Et lorsqu'elle a eu fini l'école, qu'elle cherchait un boulot et qu'elle cherchait surtout à rester en France parce que c'était un problème. Et je lui ai dit, ben, si je te prends 20 heures, tu peux avoir un... Elle m'a dit, oui, je peux avoir un visa pour rester plusieurs années. Donc je l'ai fait. Mais alors, ce qu'il y a de curieux, mais ça c'est une règle pratiquement de tous les assistants ou assistantes que j'ai eus, ils ne vous montrent pas leur travail. Alors, ça c'est un mystère pour moi. Ils sont là, à côté de moi, qui ont une expérience du métier et de toutes ces combines, de toutes ces histoires. Non, non, ils ne vous montrent rien. Alors, c'est elle qui est venue, qui m'a dit, est-ce que vous pensez que je pourrais montrer mon travail pour le Grand Prix? J'ai dit, absolument. Vas-y, alors moi j'avais souvenir de quelques photos d'elle, bon. Et puis quand je suis arrivé là au jury, que j'ai vu ces photos, j'ai dit, mais je ne les connais pas, ces photos-là. Et c'est des photos magnifiques. C'est vraiment des photos... Ça a l'air bizarre de vous dire ce que je vais vous dire, mais ce sont des photos qui ont des tripes. Voilà. Bon, alors le Zimbabwe, on connaît les histoires du Zimbabwe, la lutte noir-blanc, blanc-noir, etc. Là, elle va célébrer les blancs oubliés ou spoliés, etc. Et les quelques photos qu'elle a montrées, là, mais c'est bouleversant, quoi. C'est des images qui vous prennent vraiment aux tripes. Et c'est tellement inattendu de la part de cette fille qui est tout sourire et qui... on la verra au... On l'a vu déjà. On a vu son enthousiasme, sa fraîcheur, sa jeunesse. Blonde, alors évidemment, quand je dis qu'elle est née au Zimbabwe, on rigole. Mais c'est vrai, elle est née au Zimbabwe. Et donc, c'est une travailleuse acharnée et qui, surtout, tire en argentique. Parce que moi, je suis fidèle à l'argentique et elle le fait comme moi. Donc, ce projet va être réalisé tout en argentique. Et donc, on est impatient de voir le résultat.
Donc son projet portera sur ces populations blanches oubliées du Zimbabwe, c'est ça ?
Il va passer 4 mois au Zimbabwe, son père prépare le terrain, etc. Et elle est anxieuse, elle est angoissée à l'idée d'y retourner. Ça fait longtemps qu'elle n'y est pas allée, je crois que ça fait 10 ans. Et donc elle va avoir sûrement des surprises. Mais donc son émotion et sa culture, parce qu'elle a une culture photographique, et puis disons-le froidement quand même, l'École nationale supérieure de photographie d'Arles, c'est pas pour rien qu'elle est l'École nationale supérieure, la seule de France. Donc c'est solide, c'est un enseignement solide et costaud. Et d'ailleurs, je rappelle que certains élèves de l'école sont passés à la Casa de Velázquez, dont nous avons la tutelle. Voilà, donc nous avons affaire à quelqu'un de sérieux qui va certainement présenter une exposition très sérieuse, très profonde, très accrochée. Quoi. Moi, j'ai été troublé par ces photos. Voilà.
Donc, on verra son travail l'an prochain. Exposé, il y aura une exposition de cette moisson à son retour. Et ça vous touche particulièrement que les générations de photographes d'aujourd'hui poursuivent leur travail avec de l'argentique ?
ça me touche beaucoup, j'y suis sensible. J'étais l'autre jour en visite à la petit village de Lacoste, dans le Luberon, où il y a, bien sûr, un de nos confrères, M. Cardin, qui a le château du Marquis de Sade, qu'il a rénové, restauré. Mais il y a aussi une école américaine qui est installée, l'école de Savannah, que je connais bien aussi parce que j'ai enseigné à Savannah, et je suis venu enseigner à Lacoste. Et alors, en descendant la ruelle, là, il y avait une porte ouverte, et j'ai vu une fille, une jeune noire, qui développait des films argentiques, dans la façon classique, où on remue le conteneur dans lequel il y a les pellicules et le liquide pour développer. Et alors, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire en anglais, je lui ai dit, alors, vous travaillez en argentique? Elle m'a dit, oui, avec beaucoup de fierté et de plaisir. Ben, je lui ai dit, comme moi. Alors, on est deux. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui n'abandonnent pas l'idée de l'argentique. D'abord parce qu'il y a un modelé qui va beaucoup plus loin. Et puis, vous savez, se pose le problème de préservation. On sait très bien que certaines de ces photos numériques, on ne les verra plus. Parce qu'on n'aura même plus l'outil pour les lire, hein, pour les transposer. Donc il faut être très prudent, je le dis avec insistance. L'argentique, c'est toujours bon. Voilà.
Merci, Monsieur Cléang. Quittons la belle voie méridionale de Lucien Clergue. Saluons et signalons la sortie d'un nouveau livre de l'académicien intitulé « Nu Vénitien » aux éditions Robert Laffont, collection Segers, dont il nous a parlé et que vous pourrez retrouver très prochainement sur ce beau sujet sur Canal Académie. Retrouvons maintenant dans la deuxième partie de cette émission le photographe et journaliste Bernard Perrine pour un panorama de l'actualité de la photographie à Paris, un tour de force qui va tenter de braquer son projecteur sur quelques-unes des manifestations parmi des centaines d'expositions entre galeries et musées à Paris et même en province. La photo est à l'honneur. Retrouvons Bernard Perrine. Bernard Perrine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec Agnès de Gouvion-Saint-Cyr, les deux correspondantes de la section de photographie de l'Académie des Beaux-Arts. Vous n'avez pas de prédécesseur car la section est la dernière née au sein de la compagnie. Vous êtes donc les premiers à accompagner Lucien Clergue et Yann Arthus-Bertrand, les deux photographes membres de l'Académie depuis 2006. Vous êtes journaliste et photographe. Vous avez travaillé comme conseiller éditorial pour le magazine Le Photographe, une revue très ancienne qui a duré très longtemps.
Rédacteur en chef, 26 ans.
Vous avez été rédacteur en chef, 26 ans de cette revue qui a eu presque 100 ans.
Fondée en 1910.
Voilà.
Et paraissant le dimanche.
Vous écrivez des articles pour le journal de la photographie. On peut les trouver sur l'internet. Vous écrivez aussi pour la lettre de l'Académie des Beaux-Arts et pour la lettre de la photographie. Avec vous aujourd'hui, Bernard Perrine, pour les auditeurs et les internautes de Canal Académie, nous allons faire le point de l'actualité de la photographie à Paris en ce mois de novembre, qui correspond au mois de la photo, rendez-vous incontournable international du monde de la photographie pour un mois, voire un peu plus, car les galeries et les musées prolongent au-delà du mois de novembre généralement leur exposition. Paris devient donc la capitale de la photographie, l'espace d'un instant, mais un long moment quand même. À l'heure de cet enregistrement, nombre des manifestations attendues dans ce cadre n'ont pas encore ouvert leurs portes. Aussi, profitons de votre connaissance professionnelle, Bernard Perrine, votre connaissance des milieux de la photo et de l'évolution de l'art photographique pour faire le point, suivre vos suggestions et vos coups de cœur. Alors, commençons peut-être par Paris Photo, qui ouvrira du 15 au 18 novembre et qui est la foire internationale dédiée à la photographie historique et contemporaine et qui se tient sous le Grand Palais et qui rassemble 117 exposants et 23 éditeurs. Alors comment sont sélectionnées par exemple ces galeries qui exposent au Grand Palais, Bernard Perrine ?
Eh bien, depuis l'année dernière, il y a un nouveau directeur artistique qui est Julien Friedman, qui était directeur de l'agence Magnum avant, et qui a donc succédé à Guillaume Piens comme, je dirais, pas directeur général, mais directeur artistique de Paris Photo. La sélection se fait avec un comité de galeries restreint qui, effectivement, comme dans toutes les grandes foires internationales, fait des malheureux, je dirais, si bien qu'à l'instar de la FIAC, on s'aperçoit, on voit qu'il va y avoir manifestation un peu à côté de Paris Photo, ce qui assure son succès d'ailleurs et sa reconnaissance internationale. Donc vous avez dit 128 galeries et des éditeurs. Il faut dire que Julia Friedman a donné un coup d'accélérateur, pour ainsi dire, à Paris Photo. D'abord avec son arrivée dans le Grand Palais, qui permet effectivement d'augmenter le nombre de galeries, et aussi en lui donnant une portée encore plus internationale, puisque en dehors de la sélection des galeries, cette année avec des galeries nouvelles, des galeries françaises et des galeries internationales nouvelles, on s'aperçoit qu'on va avoir une nouvelle présentation, une nouvelle donne de la photographie internationale. Mais Julia Friedman ne s'est pas contenté de ça. Julia Friedman a aussi fait venir des éditeurs, c'est-à-dire qu'il a fait de Paris Photo un gros pôle de l'édition avec des prix qui sont attribués, comme le prix Aperture, etc. Et en plus, il invite chaque année des grandes institutions. Cette année, on va avoir par exemple Fotostiftung de Winterthur. L'année dernière, c'était Sam Sturze avec Lausanne et la Tête Moderne aussi l'année dernière. Donc on va avoir effectivement des gens qui vont venir nous montrer leur collection. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Paris Photo, on va avoir des collections qui vont être montrées. On a aussi des sponsors extérieurs comme Armani, par exemple, qui va monter une grande exposition sur Aqua. C'est-à-dire que effectivement Paris Photo a pris une dimension. Moi, personnellement, en tant que journaliste, il faudrait pouvoir y passer effectivement les 4 jours ou les 5 jours, puisque nous, on est admis un peu avant. On pourrait y consacrer notre temps entier. Malheureusement, vous l'avez dit, Paris, à partir de maintenant et jusqu'à la mi-décembre, Paris est vraiment la capitale du monde, puisqu'on va avoir des tas d'autres manifestations. Et notamment, ils vont se greffer pendant Paris Photo, parce que les collectionneurs internationaux et les visiteurs internationaux viennent. Donc, chacun veut faire son petit événement. Donc, on va avoir, pendant ce temps-là, on va avoir 3 grandes ventes de Sotheby's, de Christie's, etc.
C'est donc, vraiment le Paris bat au rythme de l'actualité.
Avec un parcours VIP, d'ailleurs, qui passe par l'Institut de France, puisque les VIP qui sont invités à Paris Photo vont visiter l'exposition qui a lieu à l'Institut, à la Galerie Comtesse de Caen.
Voilà, l'exposition de Françoise Huguier, qui est la lauréate du prix de photographie de l'Académie des Beaux-Arts Marc Ladret de la Charrière, la lauréate pour le prix 2011. C'est une magnifique exposition et j'invite nos auditeurs d'ailleurs à retrouver Françoise Huguier sur Canal Académie dans une émission qui lui est entièrement dédiée à propos de cette belle exposition. Ce sont des photos qu'elle a ramenées d'Asie.
J'ajouterais qu'aussi, bon, juste en plus, qu'il a donné une carte blanche à David Lynch qui va faire ses coups de cœur et il y aura un livre qui sera Paris Photo, David Lynch.
Ah, c'est magnifique ça. Voilà. C'était vraiment des artistes à cheval sur plusieurs supports, comme David Lynch,
qui est aussi exactement. Peintre, dessinateur, il a effectivement, c'est lui en donner une carte blanche, voilà, c'est ça, c'est coup de cœur.
Ce sont de grands artistes qui vont participer à ça. Le marché de la photo est plus accessible parce que c'est aussi un lieu de vente sous le Grand Palais.
Oui, alors on verra ce qui va se passer. À la FIAC, on n'a pas eu les résultats. On a des résultats de participation qui sont très forts cette année encore. Il y a eu des articles dans la presse qui ont dit la FIAC, un intérêt renouvelé malgré la crise dans l'art. D'autres qui disent qu'il n'y a pas de crise dans l'art. Il faut dire aussi que Paris Photo se décentralise puisqu'il va y avoir Paris Photo Los Angeles,
oui,
qui va avoir lieu donc en 2013.
Dans 6 mois, avril, à Los Angeles.
À Los Angeles.
C'est en deux parties.
Et bon, les gens disent qu'effectivement, c'est intéressant de le faire à Los Angeles dans des anciens studios parce qu'effectivement, les collectionneurs, les grands collectionneurs de photos sont quand même en Amérique. Moi, je dirais qu'il y en a aussi en Chine et qu'il peut y en avoir au Qatar et qu'il y en a partout. Voilà.
On va peut-être poursuivre avec le mois de la photo. Le mois de la photo 2012, là, c'est la 17e édition. C'est organisé par la Maison européenne de la photographie et par la ville de Paris. Là, on est dans un autre registre. Quand on disait que Paris allait battre au rythme de la photo, c'est exactement ça. L'événement donne vraiment le tempo de la création photographique et les expositions sont organisées autour de plusieurs thématiques. Alors, cette année, il y a Small is Beautiful, c'est-à-dire les petits formats, le réel enchanté, la photographie française de 1955 à nos jours. Tout ça a été confié à Jean-Luc Monterosso et finalement, cela regroupe 80 expositions dans tout Paris qui vont se prolonger, comme je le disais en introduction, jusqu'à la mi-décembre. La plupart d'entre elles sont gratuites. Alors Bernard Perrine, à quoi correspondent ces 3 thèmes selon vous ? Est-ce que le mois de la photo est avant-gardiste avec une thématique comme « Small is beautiful », c'est-à-dire en mettant l'accent sur les petits formats ?
C'est une vaste question, je dirais. Les thèmes, chaque année, sont choisis par, vous l'avez dit, Jean-Luc Monterosso. Et je voudrais ajouter qu'à côté de Agnès Hugo-Viens-Saint-Cyr, il y a deux autres commissaires, qui sont Stéphane Varnier et Léonore Nurizzani. Alors, il y a deux ans, c'était la collection, c'était autour de la collection qui était importante, la collection de Paris Photo. Cette année, ce sont des thèmes choisis par Jean-Luc Monterosso. Alors, vous me demandez, est-ce que ça montre effectivement l'avant-gardisme ou pas ? Je dirais qu'il y a des galeries répondant à ce thème qui vont aller dans l'avant-gardiste, et il y en a d'autres, effectivement, qui vont aller dans l'histoire de la photographie. Alors, est-ce que Small est l'avenir ? Peut-être, moi je dirais personnellement, là c'est mon point de vue. On a vu depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans, effectivement, des présentations de photographies dont les formats se sont agrandis chaque année. Maintenant, peut-être qu'on va se recentrer sur le small. Et pour le small, je ne vais pas être péjoratique parce qu'il y a des choses importantes qui ont été faites. Mais il y a certaines photographies, on l'a vu à la FIAC, dont effectivement, ce qui est important, c'est le format. Et pour moi, ça rejoint la photo de décoration. Je cite toujours cette réflexion d'un galeriste qui était là pour acheter une photo avec sa femme et qui regardait les photographies en fonction de la couleur du canapé. Donc, pour moi, ça rejoint la décoration, ça ne rejoint pas. Par exemple, une photo de Sidney Sherman en 2 mètres sur 3, bon, c'est intéressant, mais je pense qu'en 40-50 ou en 50-60 ou un tout petit peu plus grand, elle a peut-être un intérêt qui change de valeur, c'est-à-dire qu'on est plus à regarder ce que l'artiste a voulu dire plutôt qu'effectivement d'être dans le grand, et moi je dis dans la décoration. D'ailleurs, j'ai effectivement dans mes archives, dans mon ordinateur, des photographies ou des présentations de photographies qui illustrent ce thème, parce que je crois qu'un jour, ça va devenir évident, ça va éclater, quoi. Voilà. Mais par exemple, si vous prenez les premières photos de la Chine, puisque j'avais cité ça, j'avais repéré ça dans les 80 expositions qui vont être présentées au mois de la photo, si vous regardez les premières photographies de la Chine qui datent des années 1840, effectivement, là, vous êtes dans l'histoire de la photographie. C'est intéressant pour l'artiste, pour quelqu'un qui s'intéresse à la photographie, qu'il soit vraiment historien ou pas, et pour l'historien, naturellement. Et voilà trois raisons de pouvoir aller voir cette exposition, si on est curieux, si on a envie de voir ce qu'il faisait en Chine, si on a envie de voir la Chine à ce moment-là, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec un des organisateurs. À l'heure actuelle, la Chine, il y a beaucoup de destruction, et les Chinois sont très friands de retrouver, même ce qui est collectionné en France, en Angleterre ou partout, de retrouver des vieilles photographies de leur pays ou de leur ville, parce qu'à ce moment-là, ils redécouvrent, c'est une autre dimension de la photographie, ils redécouvrent comment c'était. C'est une des dimensions de la photographie aussi, ça.
Oui, et là, c'est vraiment une dimension de document historique. Exactement, oui. Et patrimonial pour, là, dans
et
l'occurrence, pour les Chinois.
Et quelquefois artistique aussi, parce et que voilà, ils avaient un sens aussi de la composition.
Photographie. Oui. L'autre thème, c'est celui du réel enchanté. Qu'est-ce qu'on sous-entend par ce réel enchanté ? Est-ce que c'est
le conservateur que j'ai rencontré à la conférence de presse voulait y voir une certaine poésie dans la photographie, donc un certain nombre d'expositions qui évoquent plus que le document, évoquent une vision onirique ou une vision poétique de la photographie. Voilà.
Et puis, le troisième thème, on va en parler beaucoup plus longuement, mais c'est juste pour le resituer. Il s'agit de la photographie française de 1955 à nos jours. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce choix ? Pourquoi mettre l'accent sur la photographie française ? Puisqu'on vient de voir que Paris est vraiment la capitale de la photographie pendant un mois et demi. Pourquoi s'intéresser ou mettre en valeur la photographie française et de ces années-là ?
Ça, c'est le titre.
Oui.
Enfin, c'est à titre général, mais c'est aussi le titre d'une exposition qui
majeure.
Va avoir lieu à la Maison européenne de la photographie. Bon, c'est une exposition que je n'ai pas vue encore parce qu'elle n'a pas commencé. Mais quand je vois le nombre de photographes qu'il y a dedans,
on
je
est
dirais
sans
que
voix.
C'est une exposition un peu fourre-tout, quoi.
Mm-hmm.
Alors, effectivement, bon, pour reprendre un peu un académicien, Lucien Clay aura une photographie dedans. Il y a peut-être un ou deux photographes qui en ont deux ou trois, mais c'est le maximum. C'est effectivement le maximum. On est obligé de faire deux ou trois quand il y a une série, par exemple. Mais je n'ai pas vu l'exposition, je ne peux pas être critique ou critiquer. Bon, ça peut donner, ou ça peut rappeler à un certain nombre de gens qui ne connaissent pas la photographie, toutes les directions dans lesquelles étaler la photographie de 1955 à nos jours. 1955, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, ça aurait pu être l'après-guerre immédiat. la photographie humaniste qui démarre à l'après-guerre. Et il faut dire que, bon, là, on va remonter, il faut dire que de 1955 à 1970, il ne s'est pas passé grand-chose en photographie en France, du moins dans la façon de montrer la photographie. C'est-à-dire qu'il y avait très peu d'expositions. Et quand il y avait des expositions...
Ça a explosé quand ?
Alors.
Parce que ça a explosé.
Oui, ça a explosé bien. Ça a explosé après les rencontres d'Arles.
C'est Arles et Lucien Clergue,
voilà, alors. Exactement. Moi, j'étais au courant des mouvements américains qui changeaient complètement la vision de la photographie. Par exemple, il y avait des revues que je recevais comme San Francisco Camera. Et Lucien Clergue, pas dans la première rencontre, mais dès la deuxième ou troisième, où moi, j'ai commencé à intervenir dans les rencontres d'Arles, il a fait venir effectivement toute cette nouvelle photographie américaine de Gibson à Lee Friedlander, en passant par Burke Herzog et compagnie, qui avait vraiment une écriture différente, beaucoup plus libre de la photographie. Nous étions effectivement dans la photographie un peu poétique, dans la photographie humanisme. Il y a un courant d'ailleurs, il n'a pas été déterminé. Mais
c'est quelles années le début des rencontres ?
Parce que maintenant, 1969. Et donc, ça a explosé en 1972-73. Et ça a été en s'amplifiant. Moi, j'étais directeur des rencontres jusqu'en 1977. Et effectivement, on a fait venir tout le monde. On a montré la photographie suédoise, la photographie italienne, la photographie espagnole, la photographie russe. Puisque, bon,
on ne la connaissait pas ici.
Oui, alors... il y a des Russes qui sont arrivés. Voilà, j'ai eu le KGB pendant 48 heures sur le dos à Arles parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qui se passait ici. Quoi. Voilà. Je vais ajouter que Arles est vraiment le déclencheur puisque le mois de la photo qui est arrivé 10 ans après Arles a été vraiment une copie de ce qui se passait à Arles. Les Américains n'avaient jamais vu ça. Donc c'est les Américains qui ont commencé à faire un premier mois de la photo. Et puis après, bon, effectivement... les institutions sont arrivées, elles se sont déclenchées, elles se sont rendues compte, la photographie a commencé à exister. Moi, j'ai sensibilisé personnellement un ministre qui s'appelle Michel Guy à la photographie, puisqu'il voulait faire une rétrospective du troisième quart de siècle dans les arts, dans lequel il mettait la peinture, la danse, le théâtre, etc. Et je lui ai dit, mais la photographie, monsieur le ministre. Et là, il m'a regardé en me disant la photographie. Mais j'ai dit, mais monsieur le ministre, c'est une chose des plus importantes qu'il y a eu. Regardez, vous avez des gens comme Cartier-Bresson, Douaneau, Lartigue, tous ces gens-là. C'est très important. Et effectivement, ça a été un déclencheur. Il est allé voir une exposition à l'ICP. Il a vu de la photo exposée sur trois étages. Effectivement, il a débloqué la situation et ensuite, ça a suivi son cours. Quoi. Voilà. Donc, on peut dire qu'effectivement, Arles a été
à l'initiative de ces grands passages entre les...
Et des mois de la photo qui ont été dans le monde entier après.
Bien sûr. Hein, voilà. Les initiateurs, dans le mois de la photo à Paris, quelles sont les grandes expositions que vous pourriez comme ça nous indiquer, Bernard Perrine ?
Écoutez, je vais naturellement que ceux qui ne sont pas cités me pardonnent. Mais bon, c'est à la fois un choix personnel et... pas que personnel, parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Alors, on va dire, puisqu'il y a Small is Beautiful, on va dire Small is Beautiful à la Galerie Pavio, puisque Small is Beautiful est une exposition qui a été faite il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années par la Galerie Pavio. Et d'ailleurs, leur exposition, là, qu'ils font maintenant, s'appelle Small is Beautiful 2, quoi.
Voilà. D'accord.
Donc, citons-les, quoi. Ensuite, je pense qu'il y a une exposition, l'image du corps, justement à travers une collection qui est la Photostiftung de Winterthur. Winterthur est pour moi un des musées importants de la photographie parce que, contrairement à la France, Winterthur, c'est en Suisse.
Oui,
c'est en Suisse.
En Suisse, voilà.
Oui, Winterthur en Suisse. On ne va pas raconter l'histoire, mais je veux dire, c'est une institution, grâce à un mécène d'ailleurs, qui conserve les photographies des photographes suisses qui lèguent leur collection parce qu'ils savent qu'elle sera bien. Alors que c'est le problème en France. En France, je connais 50 ou 60 personnes qui ne savent pas où donner leur œuvre à l'heure actuelle. Donc, Winterthur est intéressant parce que à la fois, ça conserve et ça monte des expositions. Et là, à travers les collections de Winterthur, ils ont monté une exposition sur le corps et l'image. C'est au Centre culturel suisse, dans le Marais, à Paris. Bon, je dirais aussi une exposition importante à la galerie Karsten Grieve. C'est les photographies vintage d'époque de Ilse Bing, une grande photographe. Louis Stettner, un photographe très important qui aura une exposition dans une galerie et une exposition à la Bibliothèque nationale de France à partir du 7 décembre. Ça commence un peu plus tard, mais je pense que c'est une exposition aussi qui est absolument importante à voir. La photographie polonaise, si on veut voir ça, c'est à la galerie Roi Doré, rue Saint-Anastase. une exposition sur la photographie en France. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, de 1950 à 2000, une exposition donc à la MEP qui a comme commissaire Gilles Morat et Alain Sayag qui était l'ancien conservateur du musée de la photo au centre Pompidou.
Donc à la Maison européenne de la photographie.
Ça, c'est à la Maison européenne de la photographie, oui. Alors, naturellement, pour mémoire, vous l'avez cité, on a fait l'exposition Françoise Huguier ici, qui fait partie effectivement du mois de la photo, de l'académie, du circuit VIP, etc. Quoi. Voilà. Un photographe que j'aime bien parce qu'il fait des photographies très précieuses et très sérieuses. Il devrait avoir un livre qui sort aussi cette année. C'est Stéphane Duroy dans la galerie In Camera qui a fait des reportages intéressants sur Berlin, sur la Russie, etc.
Voilà. C'est du photojournalisme ?
Photojournalisme.
Ça serait réducteur.
Mais photojournalisme pas direct à l'événement. C'est-à-dire une réflexion sur l'événement. C'est-à-dire que s'il y a la pauvreté, on va pas montrer des manifestations ou des gens en train de mendier. On va montrer, effectivement, on va essayer d'aller voir quelles sont les sources de la pauvreté à travers, effectivement. On va prendre des gens, mais dans leur intérieur, pour montrer, effectivement, qu'ils vivent dans des conditions assez difficiles. Voilà. Aussi bien en France que, effectivement, dans des pays comme la Russie ou à Berlin. J'ai cité tout à l'heure les premières photographies de la Chine, au Centre culturel de la Chine à Paris, qui est un boulevard de la Tour Maubourg. Voilà. Manuel Alvarez Bravo, naturellement, au jeu de paume, qui est une rétrospective de son œuvre, avec effectivement une chose importante montrée pour la première fois en France, c'est effectivement sa recherche cinématographique à côté de ses photos. Et effectivement, l'intérêt que le jeu de paume a fait, c'est qu'ils ont monté tous ces films qu'il a fait dans les années 60, ils en ont pris des parties et ils ont exposé ça dans le même format au milieu des photos. Si bien qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui est image fixe et qu'est-ce qui est image animée ? Par exemple, la photo du manifestant qui est mort à la Révolution a donné, cette première photo a donné naissance à deux films. Effectivement. Bon, voilà.
Donc le rapport entre
ces œuvres,
le photographe, voilà, la photographie et le cinéma, et comment voilà. L'un nourrit l'autre et l'autre.
L'image fixe devient animée, et dans l'image animée, on retrouve effectivement, notamment dans ces photos surréalistes, on retrouve effectivement des images fixes. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'on n'avait jamais montré cette dimension du photographe. On était toujours resté au photographe qui était marqué par le surréalisme. Voilà. Mais donc, Alvarez Bravo a vécu 100 ans. Hein. Donc, il a traversé le siècle. Ça doit être 1902-2002, quelque chose comme ça. Voilà. L'exposition montre aussi comment Alvarez Bravo a participé à l'évolution de la photographie contemporaine. Le Mexique, alors la photo mexicaine, a participé et s'est inscrit dans l'évolution de la photo contemporaine. Il faut dire que le Mexique, dans les années 30, tout le monde était là-bas. Paul Strand, Cartier-Bresson étaient là-bas. Et effectivement, leur préoccupation, déjà à ce moment-là, l'exposition de la Fondation Cartier-Bresson l'a bien montré au début de l'année, en faisant un parallèle entre Henri Cartier-Bresson et Paul Strand. Voilà.
Bernard Perrine, parce qu'il y a deux expositions majeures dont je sais que vous voulez parler et qui sont effectivement extrêmement importantes, toujours dans le cadre du mois de la photo à Paris. On va peut-être commencer par la première, qui est l'exposition au Petit Palais qui s'intitule « Modernisme ou modernité ». Les photographes du cercle de Gustave Le Grel, qui était donc le plus grand photographe du Second Empire, ça dure du 3 octobre jusqu'au 6 janvier, et sont présentés au Petit Palais à peu près 160 épreuves, en grande partie inédites. Ça, c'est extrêmement important. Et en fait, l'exposition propose une nouvelle lecture des débuts de la photographie, parce qu'on reconnaît à Le Grel près de 70 ans d'avance, c'est, disons, le propos de l'exposition, près de 70 ans d'avance sur le mouvement moderniste de l'entre-deux-guerres. Alors, vous allez peut-être nous parler de ce point de vue, mais je voudrais juste ajouter que Le Grel a été un maître pour toute une génération d'amateurs et de photographes qui l'ont accompagné, qui l'ont suivi, et qu'ils ont vraiment... ils provenaient de tous les milieux sociaux, et ils étaient quand même en rupture avec les arts de leur époque, avec l'académisme du 19e siècle, et ils ont eu beaucoup d'audace, et on redécouvre aujourd'hui justement leur aventure audacieuse hein, en matière artistique. Bernard Perrine, vous avez vu l'exposition, qu'est-ce qui vous a frappé dans ces photos présentées ? Votre œil de photographe, là.
Je dirais que cette exposition, elle a plusieurs intérêts. Effectivement, vous avez cité un des thèmes mis en avant par les deux commissaires qui sont Anne de Mondenard et Marc Pagneux. Je voulais simplement dire que ces expositions sont importantes pour moi, comme celles dont on citera tout à l'heure, parce que c'est vraiment un travail que les gens ont fait sur plusieurs années. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement... Bon, Álvarez Bravo, c'est important parce qu'il y a eu un travail, effectivement, sur les rapports avec le cinéma. Mais là, ce sont des recherches.
Et c'est l'histoire de la photographie.
On est effectivement dans des...
C'est l'histoire de l'art.
Voilà.
C'est ça que vous voulez dire.
Et de la photographie, parce qu'on est effectivement dans des choses qui ont été découvertes, des collections qui étaient découvertes. Je pense à la collection Delaunay, qui est sortie dans une vente il y a simplement un ou deux ans.
Alors, Delaunay, il n'y a pas à confondre avec le peintre. Hein.
Non, Delaunay, qui est montré là. Et voilà. Donc, il y a ça. Je disais tout à l'heure, ils ont beaucoup travaillé. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher les bonnes photos et les photos caractéristiques et les photos en très bon état. Et rien que déjà pour ça, pour ceux qui veulent voir effectivement ce qu'est une bonne photo du 19e, c'est très important. Et par exemple, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais pour Legret, par exemple, au lieu de nous montrer la énième vague de 7 avec les nuages et les marines, ils nous ont montré la seule photographie qui est verticale de la grande vague et qui, pour eux, préfigure l'impressionnisme. Donc, ils sont allés chercher à chaque fois les photos que le grand public, les conservateurs, naturellement, les historiens de l'art les connaissent, mais que le grand public ne connaissait pas. Voilà. Alors ça, c'est important. Donc, il y a deux choses. Il y a ça, il y a la qualité de ce qui est présenté. Deuxièmement, il y a effectivement des choses que je vous ai dit qui ont été trouvées, qui sont récentes et qui sont montrées pour la première fois. Il y a aussi une chose importante de Marc Pagneux qui, pour la première fois, réattribue à Adrien Tournachon, c'est-à-dire le frère de Félix Tournachon, dit Nadar, qui lui réattribue un certain nombre de photos, parce que le premier procès de la photographie, il faut le savoir, sur les droits d'auteur, effectivement, et sur le nom de Nadar, on ne va pas raconter l'histoire ici, mais le premier procès a été fait par Nadar, celui que l'on connaît, à son frère, qui commençait à devenir célèbre par ses portraits et qui signait le petit Nadar. Voilà. Mais donc, il a réattribué un certain nombre de grands portraits, dont celui de Gérard de Nerval, qui a été attribué à Nadar. Il l'a réattribué à Tournachon. Voilà. Et des photographies de scientifiques qu'on attribuait à Duchesne de Boulogne, qui auraient été faites aussi par Adrien Tournachon.
Voilà. Donc un grand travail d'identification.
Un grand travail, oui, de travail.
Et aussi un travail qui exhume de tous ces fonds des photographes qui sont ceux du cercle Legret, oui, comme alors... Le Sec, Nègre, Green, Salzmann, d'autres, Delaunay, du Manoir, Béranger, d'autres noms que le grand public ne connaît pas, soyons clairs.
Alors ça, on ne le savait pas, mais il faut juste une seconde. Il y a en même temps un livre, il n'y a pas une exposition, il y a un livre à côté de la collection Nicéphore, qui a été fait par Serge Plantureux. Là, nous sommes le cercle de Legret, nous sommes au boulevard des Batignolles, c'est-à-dire à la muraille. Et par contre, dans une vente chez Pierre Berger au mois de juin dernier, on a trouvé 16 daguerréotypes qui étaient de Legret. Et donc, il y a un catalogue dans la collection Nicéphore, dans les cahiers de la photographie Nicéphore, qui identifie ces daguerréotypes qui ont été faits par Legret. En 1848,
c'est-à-dire... Là, c'est les barrières de Clichy,
C'est avant les barrières de Clichy, puisque c'est 1848 et que Legret est ensuite... Pourquoi Legret est parti? Parce qu'il y avait des épidémies à Paris et ils sont allés aux barrières de Clichy pour respirer de l'air frais. Donc, on a un seul lien, on a le Legret qui fait des photographies à Paris, les 16 daguerréotypes, donc un magnifique autoportrait. Et derrière, à la barrière de Clichy, le cercle de Legret. Alors que Legret faisait ce qu'on appelle maintenant des workshops. C'est-à-dire que nous sommes aussi une charnière. Alors c'est là que
C'est là qu'on leur attribue cette modernité.
Mais la modernité, tout à fait d'accord. La modernité, je ne sais pas que je ne suis pas d'accord, mais la modernité, je l'attribue, moi, peut-être à des évolutions technologique de la photographie, c'est-à-dire qu'on est passé d'une technologie figée qui est le daguerréotype à une technologie que Legret apprenait d'ailleurs à son cercle, photographie négatif-positif, donc qui donnait beaucoup plus de souplesse, qui permettait effectivement d'aller faire des photographies en plongée, en contre-plongée, etc. Ce qui permet aux deux commissaires effectivement de tirer la modernité dans les années 1850-1860. Alors que bon, la modernité, ensuite, nous, on l'attribue
en photographie
aux années 20, et qui correspond d'ailleurs à une autre évolution technologique. C'est-à-dire que dans ces années-là, on est passé de la chambre d'atelier, du speed graphique, etc., à l'invention du Leica et des petits formats moyens maniables. C'est-à-dire qui nous permettaient de se déplacer
en
beaucoup plus.
En extérieur, pas facilement.
En extérieur, mais aussi plonger, contre-plonger, etc., etc. Donc effectivement,
peut-être
que les racines sont là, hein, de toute façon. Je veux dire, toutes ces évolutions, c'est effectivement la France. Mais moi, j'ai mis des doutes, parce que si je prends les grands paysagistes américains qui ont travaillé dans les mêmes périodes en Amérique, on s'aperçoit qu'effectivement, on peut aussi leur attribuer de la modernité. Voilà.
D'accord. Voilà. La modernité que leur attribuent les commissaires, c'est surtout dans la composition, mais voilà. Peut-être pour les raisons que vous venez d'évoquer.
Il y a certainement une rupture. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une rupture entre ces photographies figées qui demandaient des temps de pose énormes, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Et effectivement, ces photographies un peu plus libres qui permettent d'investiguer, d'aller voir d'autres sujets, etc.
Voilà. Et donc là, dans le traitement des sujets, oui. Et aussi dans le soin apporté au tirage, apparemment, le fait d'apporter de l'attention au tirage, au rendu, oui. C'est fait partie de la démarche artistique
exactement.
Des photographes.
Et c'est comme ça qu'Anne de Mondenard a identifié effectivement un certain nombre de choses à la couleur des tirages. Il y a certains tirages dont on ne savait pas, on n'avait pas la paternité, mais bon, maintenant on en est sûr. On s'est aperçu effectivement qu'il ne pouvait venir que du cercle de Legret, effectivement. Juste une incise pour dire qu'effectivement, dans les pièces à avoir, il y a un très gros catalogue qui est très bien fait, qui reproduit d'ailleurs beaucoup plus de photos que dans l'exposition, puisque le Petit Palais n'a pas permis de mettre tout dessus, et qui est effectivement un ouvrage que pour moi, vous me demandez ce qui est important, qui est pour moi un ouvrage historique à avoir, non seulement pour les historiens, mais pour ceux qui s'intéressent au début de la photographie.
Alors, parlons cette fois maintenant d'une autre exposition à Beaubourg, qui s'intitule « Voici Paris, modernité photographique 1920-1950 ». C'est la collection de Christian Boucret, qui est une collection qui est au Centre Pompidou. Et les commissaires sont Quentin Bajac, Clément Chéroux, et qui sont conservateurs au Musée national d'art moderne. Alors là, on est dans une autre démarche. Ce sont des photographes plus connus du grand public, hein, que ce soit Brassailles ou...
Certains très plus connus.
Plus connus que d'autres.
Les autres, non.
Mais en tout cas, quelques grandes icônes de l'histoire de la photographie sont ici présentées. Et cette collection a une histoire particulière. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler, Bernard Perrine? C'est 7000 images à peu près, pour qu'on ait une idée.
En deux mots, oui. 7000 images, je vais vous expliquer pourquoi. Christian Boucret, au départ, a constitué une première collection sur le Bauhaus et qu'il a vendu au Getty. Et Christian Boucret...
Aux États-Unis.
Et Christian Boucret, ensuite, a recommencé une collection. D'ailleurs, sa collection, il l'a constituée au départ en se rendant compte qu'il y avait beaucoup de photographes allemands qui avaient fui le nazisme, parce que, voilà, et qui étaient venus à Paris. Et donc, c'est en continuant à chercher qu'il a découvert, effectivement, sur cette période-là. Alors, dans la collection Boucret, 30 ans. Mais 30 ans, il a acheté des photos, il a retrouvé des fonds, il est allé voir des descendants des photographes, les photographes eux-mêmes, il a acheté, enfin voilà. Donc le Centre Pompidou a acheté 7000 photos, mais sa collection est plus grande. Par exemple, ils ont pris quelques Brassailles simplement parce qu'ils ont déjà le fonds Brassailles. Donc ils ont constitué leur collection en fonction de ce qu'ils avaient déjà et pour pouvoir compléter. Si bien que maintenant, sur cette période-là, je pense que le Centre Pompidou a la plus grande collection au monde pour cette période-là. Et ce que Christian Boucret s'est intéressé justement à des gens dont personne ne parlait. Vous avez cité des noms importants tout à l'heure qui émergeaient. Mais il faut dire que sur cette période-là, dans la collection Boucret, il y a 120 photographes. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne les connaissait pas tous. Que les conservateurs ont choisi pour cette exposition... Alors, dont la première partie du titre qui s'appelle « Voici Paris ». Pourquoi « Voici Paris » ? Parce que « Voici Paris », tous les photographes étrangers à cette période ont convergé sur Paris. C'est-à-dire que vous avez les Américains, des Américains qui sont venus, Man Ray, Bérénice Labotte, vous avez des Russes, Lipnitsky, vous avez les Hongrois, vous avez les Polonais, vous avez les Allemands, naturellement. Les Allemands, il y en a beaucoup, naturellement. Et ils sont tous venus à Paris, bon, pour les raisons qu'on savait, fin de l'Empire austro-hongrois, montée du nazisme. Gisèle Freud, que j'ai bien connue, m'a raconté ça, c'est qu'elle a pris le dernier train parce que quelqu'un lui avait dit « Va-t'en, parce que sinon tu vas être arrêté. » Elle a pris une valise et a pris le dernier train pour venir à Paris. Sinon, elle était arrêtée. Donc, ça veut dire qu'il y a eu effectivement... Et ça, c'est la première chose, chassé pour des raisons de guerre, etc. Et la deuxième raison qui est très importante.
C'est que Paris est aussi une capitale des arts très importante.
Oui, et mes troisième raison beaucoup plus importante pour ces photographes, c'est que Paris a été la capitale qui a commencé à publier des revues, comme Vue, etc.
D'où Voici Paris, d'où on y arrive.
Voici Paris, et surtout, donc, donner du travail à ces photographes. Et il y a une salle qui explique très bien ça, moi j'appelle ça la salle de l'illustration, où on montre les photos des photographes et leur utilisation en dessous, dans les revues, comme couverture de livres, comme affiche, comme illustration de livres, etc. Donc ça veut dire que Paris, en même temps, était une capitale qui permettait
qui
à ces gens
de
vivre, naturellement, quoi. Voilà.
C'est parmi les 300 tirages exposés, ça permet de voir ce qu'on appelle la nouvelle vision. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle vision comme courant photographique ?
Alors, la nouvelle vision, il y a une définition, mais on pourrait aussi la démarrer de l'Allemagne. La nouvelle vision, c'est effectivement des photographes qui photographient en gros plan des objets modernes. Par exemple, une aiguille de gramophone sur un disque, un gros plan, de lunettes ou de choses comme ça. Et utilise effectivement ça. Elle utilise le gros plan, je l'ai dit, la photographie en gros plan, parce que c'est pas courant. Elle utilise aussi des techniques comme la surimpression, la solarisation, toutes ces techniques qui balbutiantes,
qui sont expérimentées à ce moment-là.
Le photogramme aussi, qui sont expérimentées à ce moment-là.
D'accord.
Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un petit, je vais pas dire qu'il y a un hiatus entre les deux conservateurs, mais effectivement, Voici Paris, en réalité, il y en a qui voudraient que ce soit une école. Mais ce n'est pas une école. C'est une modernité multiple. Et c'est ça que les conservateurs ont voulu montrer à travers plusieurs salles.
C'est-à-dire que c'est l'avènement d'une culture de masse et la photographie a participé à,
voilà,
et à ce développement.
Dans ce Voici Paris, il y a aussi, on a dit la nouvelle vision, mais il y a aussi un courant qui était un courant social. C'est-à-dire qu'ils ont voulu montrer effectivement
des réalités
des réalités de la vie courante et aussi des réalités de la vie courante comme l'arrivée par exemple du Front populaire en 1936 qui a fait éclater le sport, les loisirs, etc. On se souvient des grandes photographies d'Henri Cartier-Bresson sur les bords de Marne, etc. Les vacances. Et justement, je m'en profite pour dire qu'il y a une photographie qui n'était pas des bords de Marne, d'ailleurs, d'après une étude qui serait faite par l'ancien conservateur du musée d'art moderne de New York, qui serait, d'après les planches de Quentin, qui serait plutôt les bords de Seine que les bords de Marne. Et là, il y a une très belle photographie, justement, de ces bords de Seine ou de Marne, qui est complètement différente de celle qu'on connaît et qui est vraiment très importante. Donc, deux pôles, trois pôles, et un autre pôle qui a été important parce qu'il remet en valeur un certain nombre de photographes. Vous avez tous les photographes qui ont été contre ces mouvements de nouvelles visions, etc., qui sont revenus à l'antique, qui sont revenus à la nature morte, qui sont revenus au nu, qui sont revenus au portrait, etc. Et là, vous avez effectivement tout un nombre de photographes français qui pourraient composer une école. Vous avez Sougez et vous avez surtout Daniel Masclé. Daniel Masclé, Christian Boucret a 400 Daniel Masclé dans sa collection. Et le Centre Pompidou va faire une exposition Daniel Masclé dans les collections de peinture traditionnelles à la fin du mois d'octobre. Il ne va pas exposer les 400, mais il va exposer...
Dans les collections de peinture
Dans les collections du musée d'art moderne en général, où il y a la... Pour cette exposition, nous sommes dans l'atelier de photographie et de graphisme à la salle 4. Et par contre, effectivement, salle 4 et salle 5, nous avons les collections de peinture traditionnelles du Centre Pompidou. Et dans ces collections, les conservateurs vont faire une exposition Daniel Masclé.
Daniel Masclé, pour rappeler pour les dates, c'est 1892, il est mort en 1969 à Paris.
1969,
c'est pour le situer.
On l'a très bien connu.
Il a été également critique.
Critique, effectivement, et il a été critique. Et il a surtout des tirages d'une qualité absolument remarquable.
Pour les internautes, il y a des gens beaucoup plus connus, comme Man Ray, dans des clichés montrés.
Dorama.
J'en cite quelques-uns.
Il faut citer l'unique, on l'a vu nulle part cette photographie-là, ni reproduite, l'unique autoportrait de Germaine Krull. Germaine Krull à la cigarette, enfin, non, elle fait un jeu de mots. Germaine Krull, autoportrait avec Icarette. Icarette était le nom, la marque d'un appareil photo, mais elle a la cigarette à côté. Donc, à mon avis, elle a voulu faire un jeu de mots entre cigarette et Icarette. C'est une photographe très importante qui est justement allemande, qui a travaillé effectivement sur les grandes structures modernes. Elle a fait en particulier un livre remarquable qui s'appelle Métal. Elle a travaillé aussi sur le paysage avec un livre qui s'appelle Levallois. Elle a fait aussi le Paris-Marseille avec le fameux pont transbordeur qui a été photographié par des dizaines de photographes. Et puis après, elle s'est éclipsée. Moi, je sais que je l'ai rencontrée. Elle m'a dit que De Gaulle l'avait nommée après la guerre comme photographe aux armées. Et puis après, elle est partie dans un ashram aux Indes. Ouais. Et elle est décédée dans les années 80, c'est ça, oui. Moi, je l'ai interviewée. J'ai dû l'interviewer en 76 ou 77, quelque chose comme ça.
Bien. Alors, nous avons évoqué, l'actualité de la photo à Paris, mais en province, vous allez quand même juste nous citer quelques événements qui ont aussi leur importance. Bernard Perrine, on va peut-être commencer dans la proche banlieue parisienne.
On va commencer juste en deux mots aussi, le deuxième festival photo Saint-Germain-des-Prés.
Oui.
Sur le thème voyage et rêve, il y a quand même 47 expositions. Bon, alors après, effectivement, dans la proche banlieue parisienne, vous avez à la maison à Gentilly, à la maison Robert Doisneau, vous avez une exposition Savitri qui va commencer dans les prochains jours et qui va durer jusqu'au début de 2013, naturellement. Ça, c'est pas la proche banlieue parisienne, mais c'est le bal qui est donc du côté de Pigalle, une salle du côté de Pigalle, qui montre une belle exposition de Paul Graham, très rare puisque le musée Pompidou devait faire une exposition Graham et elle a été refusée, donc Graham, c'est intéressant. Sinon, en province, effectivement, à Paris, juste en un mot, les grandes ventes. Il va y avoir 4 ou 5 grandes ventes, naturellement, à Paris, comme d'habitude, pendant Paris Photo, tous les collectionneurs sont là. Alors, vous avez un certain nombre d'expositions de Plossu et la Sainte-Victoire à Aix-en-Provence, Marseille-Plossu avec toutes les commandes et les photographies que Plossu a faites à Marseille, avec 2 livres qui sont là. Vous allez avoir aussi, à Nice, vous allez avoir une rétrospective de Denis Bria, avec toutes ces grandes photos, qui durent aussi jusqu'au début de l'année prochaine. Et à Grenoble, vous avez une grande exposition qui dure jusqu'au mois de mars, là, une grande exposition sur Robert Doisneau et les Alpes. Donc, on sait que Robert Doisneau a été dans les Alpes plusieurs fois. Il a emmené ses enfants, etc., etc. Et il a fait surtout beaucoup de photographies avec Maurice Baquet.
Donc, un autre, ce ne sera pas simplement le baiser, la photo, c'est tout à fait autre chose.
Vous avez d'ailleurs
un autre Robert Doisneau à découvrir.
Un autre Robert Doisneau encore, qu'on découvre. Et il y a d'ailleurs un livre qui paraît, Robert Doisneau et les Alpes. Et il y a un autre livre sur Robert Doisneau qui est encore un autre côté de Robert Doisneau. C'est son côté, effectivement, travail de tous les jours. C'est les reportages que Robert Doisneau a effectués pour Point de vue et Images du Monde. Donc, c'est un livre aussi qui paraît, je crois, le 8 novembre. Un gros livre sur les travaux de Robert Doisneau. Alors, on le voit photographier Gérard Philippe, on le voit photographier des tas de gens comme ça. Et donc, voilà, très important. Voilà.
Et pour les ventes, vous aviez annoncé...
Les ventes, ce sont les grandes ventes. Je citerai par exemple les archives du Herald Tribune qui vont être vendues à la mi-novembre à Paris sous l'expertise de Viviane Esders. Voilà.
Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, Bernard Perrine, un véritable tour de force de l'actualité de la photographie à Paris, en France, pour le mois de novembre. Mais vous, comme vous avez pu le constater, ces expositions se prolongent au-delà du mois de novembre. Et à Paris, c'est le moment de découvrir des œuvres qu'on n'a pas l'habitude de voir, des photographes qui sont redécouverts, et puis des photographies du monde entier également sont à Paris sous nos yeux. Voilà, merci beaucoup Bernard Perrine.
C'est moi.
Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un numéro de Sur le Pont des Arts entièrement consacré, cette fois à l'architecture et au Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts.